Vous écoutez
RMC.
Il est 23h05, Walida Cherchour est toujours là, Daniel Riolo, Kevin Diaz et Pierre Sage avec nous ce soir, entraîneur de Lens. Il y a un sujet qu'on voulait aborder ce soir dans l'after, c'est la formation des coachs. Parce que Pierre a un parcours atypique. En France, en gros, pour être accepté dans les sessions de formation d'entraîneur professionnel, bah, il faut avoir un vécu de joueur. Voilà, c'est comme ça qu'on le voit. Il faut avoir joué un certain nombre de matchs en Ligue 1, avoir des sélections en équipe de France, ce qui ferme la porte à beaucoup de monde. Et la réussite de Pierre, finalement couronné meilleur entraîneur de Ligue 1, est un contre-exemple parfait. Et très intéressant aujourd'hui sur X, hein, une longue explication que je vous invite à lire d'Enzo Djebali sur ce sujet nous a amené à l'appeler. Enzo, lui qui est déjà venu dans l'after, qui est recruteur en chef en MLS au FC Dallas et qui est en ligne avec nous. Bonjour, bonsoir Enzo, enfin bonjour chez toi aux États-Unis.
Oui, bonsoir Gilbert et bonsoir à tous, vous allez bien?
Salut Enzo.
Tu dis sur X, Pierre Sage incarne précisément les profils que la Fédé et l'UNECATEF n'ont jamais identifiés comme leur fer de lance. Il révèle l'échec stratégique du retard de nos instances avec des dogmes hérités de Georges Boulogne. Georges Boulogne, c'était limite il y a 200 ans. Hein,
donc un sujet qu'on a abordé depuis 20 ans, ça a été un de nos sujets majeurs, ça.
Oui, mais là, Enzo va plus loin parce qu'il compare aussi avec ce qui se fait dans d'autres pays de football. Alors Enzo, si tu veux un peu développer ça, et puis après on prendra l'avis de Pierre, bien sûr.
Oui, parce que l'idée en fait c'était de se dire que il y a une sorte de numerus clausus en France qui est aussi légiféré par l'UEFA, c'est-à-dire qu'on a 10 candidats au BEPF chaque année. Malgré tout, il y a des pays qui, on va dire en demande de dérogation, peuvent enlever ce numerus clausus de 10 personnes et donc faire en sorte qu'il y ait plus de candidats et des candidats qui sont plus légitimes ou alors plus prometteurs. Et cette année, on a quand même beaucoup d'exemples qui sont passés un peu par la fenêtre dans les candidatures au BEPF. Je pense notamment à Jordan Grosales à Versailles, parce que c'est un coach qui a été recruté par Versailles malgré le fait qu'il manquait de diplôme et qu'ils ont budgété le fait qu'il fallait faire en sorte que c'est le coach du futur et donc on paierait les amendes. Et ben malgré tout, comme il va être en Ligue 3 l'année prochaine, et ben la FFF a été un peu forcée et contrainte de ne pas le rendre illégal sur le long terme et donc de l'intégrer au BEPF. Et il y a pas mal de coachs dans ce profil là.
Alors c'est vrai que entraîneur de football, on a l'impression que c'est un métier. Pour y arriver en France, voilà, il faut être dans les petits papiers en fait. Enfin, c'est l'impression que ça donne, Pierre.
Alors déjà, pour entrer dans une formation, et notamment le BEPF, il y a soit le nombre de matchs, mais il y a aussi les années de contrat à un certain niveau. Ouais. Et ce sont des prérequis incontournables avant de passer un entretien. Et une fois qu'on est dans l'entretien, effectivement, il faut avoir le profil, je dirais. Et le profil, il est souvent évalué par rapport à l'employabilité. C'est-à-dire la capacité à décrocher des contrats avec ce diplôme-là. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Moi-même, je n'avais pas les prérequis pour entrer en formation, donc j'ai dû faire à ce moment-là une VAE. Et cette VAE a été possible parce qu'elle a été réformée, sans quoi j'aurais dû attendre encore 6 mois et je n'aurais pas pu prolonger mon contrat à Lyon.
La direction technique nationale, qui constate que donc...
Qui est dirigée par...
Hubert Fournier,
voilà. Merci. Daniel fait exprès, c'est un running gag de l'after.
Oui, mais je trouve qu'à chaque fois, personne ne répond jamais.
La direction technique nationale qui met en place ces critères et qui a dit à un moment, il y a quelques années à Pierre Sage, non, monsieur Sage, vous n'avez pas les prérequis, constate quelques années plus tard que le même Pierre Sage est élu meilleur entraîneur de Ligue 1, gagne la Coupe de France et deuxième du championnat. Ça ne remet pas en question le fonctionnement.
Le process, mais bien sûr, mais le process, il est moisi depuis des années.
Moi, ce qui me dérange le plus dans tout ça, c'est le fait de ne pas pouvoir accéder au savoir, ou en tout cas à la connaissance, à assister aux cours. Après, les valider, c'est autre chose. Je comprends qu'on ne soit pas tous taillés, peut-être, pour aller au niveau, même si... Il y a des bonnes surprises, mais dans tous les cas, voilà, le fait de ne pas avoir le droit d'apprendre, je trouve ça très grave.
C'est un problème qu'on retrouve dans beaucoup de pays. D'ailleurs, Enzo, dans ton trade très intéressant que je vous invite à lire, tu parles notamment d'un truc que je connais, c'est qu'aux Pays-Bas, par exemple, mais au Portugal, c'est un peu pareil aussi, mais pire aux Pays-Bas, c'est-à-dire que les anciens joueurs professionnels doivent avoir le même cursus qu'un joueur amateur. qu'un entraîneur amateur. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils doivent passer tous les diplômes. Et je peux vous dire que du coup, si ça avait été le cas en France, il y aurait beaucoup d'anciens joueurs qui n'auraient pas les diplômes. Moi y compris, je ne sais pas si j'aurais été, même si j'ai passé mes diplômes très jeune, déjà à 18 ans, j'avais l'initiateur 1. Ensuite, j'ai passé le BEF en 2015 et j'ai dû attendre pour le DES 2023. Donc, en effet, c'est un long parcours, mais il y a beaucoup de joueurs, malheureusement, qui le passent, bah, parce que je leur en veux pas. Ils le passent parce que, bah, il y a un peu de, disons, de raccourci et donc, bah, ils ont pas beaucoup de diplômes. Donc, ils se disent que ça peut leur aider, ça peut les aider peut-être à la pré-carrière, de pas complètement couper avec le foot, de se garder un pont, etc. Mais le souci, c'est que du coup, ça prend la place de beaucoup de gens qui, eux, leur métier, c'est d'entraîner. Et moi, je vais répéter ce que j'ai dit il y a deux jours dans l'after. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense qu'à l'avenir, avec les exigences qu'il faut aujourd'hui pour être un entraîneur de haut niveau, c'est-à-dire gérer un staff de 15, 20, 30 personnes et toutes les exigences au quotidien que ça représente, je pense qu'il y aura de moins en moins de joueurs de très haut niveau qui voudront être entraîneurs ou qui pourront être entraîneurs.
Et plus des gens qui sont forts en management.
Voilà.
Ouais, ok.
Même pour savoir dans plein de domaines.
Et Pierre, d'accord avec ça? Avec la nécessité de. Le fait que la tendance sera plus à avoir des profils un peu comme le vôtre. Plutôt que des anciens joueurs.
Des vrais entraîneurs.
Qui, finalement, mis à part le vécu de vestiaire, ne fait pas forcément un bon coach.
Il ne faut pas opposer les deux.
Il y a
beaucoup d'anciens joueurs qui, ils l'ont prouvé par le passé, qui sont tout à fait capables de mener une équipe. Et à l'inverse, il y a aussi des gens du monde amateur qui sont capables d'entrer
les problèmes. Pierre, j'entends et tu as parfaitement raison de dire il faut pas opposer. Évidemment, c'est jamais une solution. Sauf que cette opposition, elle nous était proposée par ceux qui,
elle était forcée.
Par ceux qui étaient en face et qui disaient vous n'avez pas été sur le terrain. Pour nous, c'était la même en tant que journaliste. Vous ne pouvez pas parler de foot parce que vous ne connaissez pas le vestiaire, vous ne connaissez pas le terrain. Ça a été la même chose. Nous, je répète, dans l'after, ça a été un de nos premiers thèmes. Effectivement, on constatait qu'il n'y avait que des anciens joueurs qui étaient sur les bancs. Et alors qu'au Portugal ou en Italie, il y a en des Allemagne. Gens qui ont bougé le football sans avoir été des grands joueurs, que ce soit Mourinho, Arrigo Sacchi, au Portugal, en plus, il y en a plein pour le coup, qui n'était pas
un Villas-Boas,
il n'a jamais été joueur.
Nagelsmann.
Oui, après, tu peux avoir un petit niveau, Ligue 2, Ligue 3, genre Tourelle ou des choses comme ça. Voilà, plein.
Non, mais après,
l'opposition, elle nous était proposée par le CRA français. T'es d'accord, Enzo, de dire que cette opposition, elle nous était imposée par les gens du Sérail, en fait?
Non, en fait, c'est ce que je voulais dire, en fait, par rapport au paradigme. On peut se dire, et c'est une logique tout à fait valable, que le vécu de vestiaire, c'est une force, et que du coup, par rapport à ça, il faut le mettre en avant. Mais dans ce cas, pourquoi l'utiliser comme un critère et pas l'utiliser comme une force équitable, en fait? Ça veut dire que dès le début, par exemple, on parlait de la Hollande, et je rebondis sur ce que disait Kevin Diaz, les anciens joueurs, enfin les professionnels qui sont sur leur fin de carrière, tous les lundis, ils ont accès à la KNVB Academy. C'est une sorte de programme passerelle entre la KA professionnelle et donc le lundi, c'est le jour de décrassage. Donc en général, c'est des jours plus libres pour les joueurs pour pouvoir passer justement en transition sur la carrière professionnelle. Donc justement, on peut même pousser la réflexion jusqu'au bout. Si le vestiaire est le vécu de vestiaire est une force, pourquoi ne pas même carrément faire passer dans les clubs le BMF, le BEF, puis le DES, donc c'est à chaque degré de diplôme, à partir des jeunes professionnels. Donc en plus c'est tout bénef parce que ça permettrait de conscientiser les joueurs à la difficulté de tenir une séance, et ça je pense que Pierre serait très sensible à ça. Ça créerait du QI football naturel, et puis donc du coup les pros arriveraient au BEPF beaucoup plus solide, beaucoup plus fort. Et je rebondis aussi sur ce que disait Pierre sur un point qui est très important, sur l'accès à la connaissance. Peu importe le fait effectivement de passer ou pas, mais l'accès à la connaissance, aujourd'hui au Portugal, Kevin en parlait aussi, il y a aussi une filière universitaire pour arriver jusqu'au BEPF ou même jusqu'au DES. En plus, en France, on a les passerelles pour ça, puisque pour l'analyse vidéo, on utilise le DU, donc le diplôme universitaire de Montpellier, pour pouvoir former à l'analyse vidéo dans tous les sports, y compris le football. Donc, on a en plus les supports universitaires pour pouvoir ouvrir à ce schéma.
Il nous aura fallu simplement.
Merci Enzo, c'était intéressant.
Salut Enzo. Et il nous aura juste fallu.
On envoie donc à ton compte X.
John Textor pour prendre la décision de lancer Pierre Sage.
Merci. Qui a été peut-être la bonne décision de John Textor.
Mais c'est vrai, après tout, on rigole, mais c'est vrai, Pierre.
Mais en même temps, il y a peut-être que lui qui pouvait le faire.
Non, mais cela dit, votre parcours est inspirant pour des tas d'entraîneurs amateurs qui se disent il l'a fait, pourquoi pas moi.
Et malgré tout, il faut pas se dire que ce sera la norme, parce que effectivement, ça tient à la décision d'un homme à un moment donné, où je pense sur 1 million de personnes, c'est le seul qui aurait pris cette décision là. Et la seule chose qu'on peut leur conseiller de faire, c'est surtout de prendre soin d'eux et de leurs connaissances.
Pierre, avant de se quitter, un mot sur Habib Bey, parce que vous avez bossé ensemble au Red Star.
Je crois que la soirée de NFP, vous avez même eu un mot pour lui, ou j'ai raté un tout. Oui, il me semble.
Peut-être en conf. Ouais.
Oui, en conf. Oui.
Bon,
pourquoi ça prend pas?
Vas-y, tu as bien résumé ma question.
Pourquoi ça prend pas Habib Bey, toi qui le connais très très bien, toi qui l'as connu, qui a été dans son staff, t'étais pas prédisposé à être numéro 1 avant lui en Ligue 1, parce que son projet était vraiment voulu.
Ça peut être Pizza, c'était OK? Donc il y a un problème à côté.
Hein. C'est pour ça que j'aimerais savoir. Non, mais j'aimerais savoir l'avis de Pierre là-dessus.
Je pense qu'on peut pas analyser les trois périodes, la première arène, la deuxième arène et celle de Marseille, de la même manière. Pour moi, la première arène, ça prend. La deuxième arène, ça prend pas, mais il y a une forme d'attentat en interne, je trouve.
Ah, donc peut avoir une bonne pâte à pizza, ça dépend de ce qui se passe dans les clubs quand même.
Voilà, c'est ça, personne n'avait envie de porter les plats en tout cas.
Merci.
Et la dernière chose, à Marseille, ça s'est joué en trop peu de temps dans un contexte
parfaitement
qui n'était pas bon non plus.
Tu penses qu'il est mort en France ?
Non.
Ce serait totalement injuste s'il l'était, parce qu'il n'y a pas eu assez de temps. Moi, et des contextes très compliqués.
J'aimerais bien qu'on le laisse respirer un peu et travailler dans un contexte où il soit tranquille, et justement qu'on arrête de dire l'ancien consultant, qu'on respecte le fait que ce soit un entraîneur, un homme, et qu'on le laisse pour ce qu'il est aujourd'hui et pas ce qu'il était hier.
Mais alors tu vois, Pierre.
Bravo Pierre Sage.
Puisque je reviens moi sur l'idée qu'aujourd'hui dans votre métier, la communication et la façon dont on fait passer le message, aussi bien en dehors qu'en interne, c'est un des éléments qui compte le plus pour moi. Si à travers vous, je devais lui passer un conseil à Habib Bey, c'est que lui qui croit être un excellent communicant l'est peut-être moins qu'il le pense. Et qu'avoir des explications formidables, parce qu'elles le sont souvent, assez claires, elles seraient encore meilleures si elles étaient dites autrement. Et dans le foot, qui est, c'est pas insultant de dire que c'est un milieu simple, populaire, qui doit s'adresser à plein de gens, je pense que mettre un sourire de temps en temps, un petit peu de second degré, un peu d'ironie, expliquer la vie de façon simple.
Je trouve qu'il le fait.
Non. Il y a toujours une sorte d'intensité dramatique.
Mais ça, c'est sa personnalité, peut-être.
C'est pas ça que je lui reproche, moi.
C'est pour ça que dans la communication, la personnalité, ça se travaille aussi. Et on a le droit de pas penser que chaque match qui se joue, c'est une explication scientifique et un drama autour. Tu dois pouvoir aussi t'exprimer autrement. Et je maintiens que la communication aujourd'hui.
Parce que
la communication, elle est importante quand tu t'exprimes aussi, parce que les joueurs écoutent de dehors l'image qu'a ton coach.
Moi, je pense qu'il pourrait faire une blague, qu'il pourrait sourire. On lui reprochait de faire une blague, de ne pas prendre le truc au sérieux. Il est trop sérieux.
Ça mériterait d'être tenté.
Ce qui est intéressant, surtout Pierre, c'est que moi, j'aimerais t'entendre là-dessus, c'est sur les choix de carrière. Tu vois, dans le premier quart d'heure, on a parlé de la suite de ta carrière. Vous êtes quand même responsable de vos choix. Et Habib Bey, d'aller à Marseille. Juste après Rennes, est-ce que avec le recul par rapport au contexte, parce que Habib Bey, moi je l'ai connu au Red Star et ça a été un entraîneur qui a toujours mis en place des choses intéressantes que je ne vois pas dans des contextes beaucoup plus compliqués. Mais quand il va à Marseille, il sait que le contexte va être très très compliqué. Donc quand tu es responsable de ce choix, quand tu assumes d'aller à Marseille, moi je trouve que c'est un peu facile de dire à la fin oui, mais c'est parce que le contexte. Sinon il va pas à Marseille en fait s'il y a pas ce contexte-là.
Déjà, on lui a posé la question de savoir s'il voulait venir. Et la deuxième chose, c'est quel est ton rêve, toi, Walid ?
Bah, de continuer à parler de foot.
Voilà, donc je pense que lui, c'était son rêve.
Bah oui.
Très honnêtement. Et encore une fois, le jeu des opportunités fait à un moment donné que le timing n'est peut-être pas forcément le bon au vu de ce qui se passe. Mais malgré tout, ils n'étaient pas dans une situation catastrophique non plus. Les deux objectifs étaient encore atteignables. Et donc, il y allait. Et je pense que pour lui, c'était une grande fierté de signer à l'OM. Et c'est peut-être pour ça aussi que son mood a évolué avec toute cette pression et que du coup, on fait cette analyse maintenant. Mais j'aimerais bien le voir dans un milieu sain.
Est-ce que c'est par loyauté envers Habib Bey que tu n'irais pas à Marseille s'il t'appelle dans les prochains jours ?
Non, parce que pour moi, aujourd'hui, à la fois je ne suis pas prêt et eux non plus ne sont pas prêts. Je pense qu'on a besoin de tous travailler sereinement avant de se rejoindre peut-être un jour.
Merci Pierre d'être venu. C'était passionnant comme toujours.
Merci à vous.
Juste une dernière question, Gilbert. Si demain tu devais être sélectionneur de l'équipe de France, là demain la Coupe du Monde commence.
Tu prends Neymar, c'est ça?
Non. C'est quoi ton 11? C'est quoi le 11 de Pierre Sage, de Didier Deschamps à la
volée? Ah là, tu balances ça comme ça là?
Ah non, mais ouais. Donc là, il nous reste. Ouais. Il nous reste.
C'est comme ça à la volée, si t'as une idée, un système de jeu, l'équipe que t'aimerais voir le premier.
Rissière dans les deux.
T'es quand même supporter de l'équipe de France, Pierre, ça m'intéresse.
La pâte à pizza de Deschamps, il travaille pas l'aspect offensif.
Non, même si. Pierre Sage, c'est four à bois, Deschamps, c'est four électrique.
J'aimerais avoir le four à bois.
Alors, ce qui est certain, c'est qu'au vu de la qualité offensive, il faudra un système avec 4 joueurs offensifs, donc sûrement un 4-2-3-1. Bien évidemment, je ferai jouer Ryan Cherki hein, avec Dembélé
derrière l'attaquant.
Ouais, je mettrai Dembélé en pointe, je mettrai Mbappé à gauche avec un latéral qui est capable de prendre l'espace pour que Mbappé vienne à l'intérieur. Olise à droite, je l'ai beaucoup aimé à droite au Bayern. Oui. Au milieu du terrain, il a plusieurs solutions. Hein.
L'embarras du choix, enfin, c'est homogène.
Mais c'est quoi? Tu mets quand même deux profils, quoi. Genre, Tchouaméni obligatoire, plus un.
Tchouaméni Gonnet, Tchouaméni Rabiot, Tchouaméni.
J'aime beaucoup, peut-être Rabiot, ou peut-être Zaïre Emery, un joueur qui se projette. Vu qu'on va beaucoup s'engager à gauche, peut-être un profil à droite qui est plutôt à jouer vers l'intérieur. Donc peut-être qu'effectivement Koundé fera l'affaire. Et ensuite, j'aime bien les joueurs de Liverpool et de Bayern qui jouent dans l'axe. Ce sont deux très bons joueurs.
Donc Upamecano, Konaté. Ou Upamecano, Saliba.
Saliba.
Et peut-être, ouais. Enfin, en même temps, quand c'est le seul choix qu'on aura à faire, ça ira. Mike Maignan, bien sûr.
Ouais, je crois que c'est l'équipe qu'on mettrait tous et que peut-être Deschamps mettra.
Non, c'est plus Olise en 10 et Dembélé à droite.
L'équipe qui joue. Non
oui.
Ouais, c'est plus Olise derrière l'attaquant.
Donc là, le premier joueur cité, c'est Cherki.
Mais là, c'est un manque absolu d'objectivité, peut-être, mais malgré tout, c'est un super joueur.
Et hier, chez nos amis de Téléfoot, vous avez dit, moi, Neymar, je le prends avec le Brésil.
Ouais, bien sûr. Parce que je pense que quand il y a 0-0 et on est à la 80e, on peut gagner le match s'il rentre.
Voilà. Ah
oui. Tu peux y aller parce que Daniel, de toute façon, il n'y a qu'une minute, avant la pub, donc tu es obligé. Tu peux pas te payer. Vas-y, bon, il n'y aura pas de combat derrière. T'inquiète pas.
Sur Neymar, il est
d'accord. Merci Pierre.
Il n'est pas d'accord.
Merci Pierre.
On a dit qu'on restait d'accord jusqu'à
la fin.
Non, mais on peut faire une équipe en pensant à 0-0 à la 80e. C'est un beau projet de jeu. Bravo Pierre. Je ne pensais pas que tu voyais le foot comme ça.
Mais peut-être qu'il rentrera sur aucun match et qu'on n'aura pas eu besoin de lui.
Ah, d'accord. Donc tu le prends pour animer ton vestiaire.
Dans un instant, on continue de parler des coachs.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à tous.
À très bientôt.